BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons en région parisienne, chez Manutan, l'un des leaders de la fourniture de mobilier de bureau. Manutan est confronté à de nombreux défis pour sa décarbonation. Notre reporter Philippe Indolbo est allé sur place et notre expert viendra en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons santé et cosmétique. Peut-on faire de la cosmétique et du bien à la planète? On en parlera avec deux dirigeants du secteur qui ont mis en place des business models d'un nouveau genre. Sophie Robert-Velu des laboratoires Expansions et Julie Ducré de Pulpe de Vie. Et on terminera l'émission avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard bien tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc à Gonesse, en région parisienne, chez Manutan, l'un des leaders de la fourniture de mobilier de bureau. L'entreprise veut accélérer sur sa transition climatique et s'est fixé de nombreux objectifs. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes de Manutan.
La belle histoire du jour, c'est celle de Manutan, une entreprise familiale française, leader dans la distribution de matériel pour les entreprises et les collectivités. Son univers, eh ben, c'est tout ce qui touche aux équipements, aux aménagements professionnels, avec une démarche, vous allez le voir, résolument tournée vers le durable. Alors avec les enjeux forcément croissants, la transition écologique, Manutan s'est engagé depuis longtemps sur plusieurs fronts pour limiter son impact carbone. Et justement, je vous emmène découvrir aujourd'hui trois défis auxquels l'entreprise fait face pour répondre aux enjeux climatiques de demain. On en parle tout de suite avec leurs équipes. Alors, le premier défi pour Manutan, eh bien, c'est celui de réduire les émissions liées au transport. Manutan doit livrer des produits partout en France. Et pour diminuer l'empreinte carbone du transport, justement, l'entreprise travaille à verdir les flottes de ses livreurs et cherche à réduire le nombre de livraisons.
Avec des centaines de fournisseurs, des milliers de clients qu'on livre tous les jours, 12 plateformes logistiques partout en Europe, la réduction des émissions carbone du transport est un enjeu majeur chez nous. Alors, on travaille sur trois axes. Le premier, c'est de travailler avec des transporteurs de plus en plus responsables qui eux-mêmes réduisent leurs émissions carbone. Le deuxième, c'est d'accompagner nos clients dans l'optimisation des livraisons. Et le troisième, c'est dans nos propres processus, l'optimisation des chargements, le travail sur nos emballages à l'entrepôt et tout ce qui permet aujourd'hui de mieux charger les camions de nos transporteurs.
Les challenges pour les années qui viennent va être d'avoir un reporting harmonisé et automatisé de nos émissions de CO2 au travers de tous les pays européens et tous les transporteurs sur l'aval, mais également sur l'amont depuis nos fournisseurs. Et par ailleurs, de pouvoir déployer toutes les initiatives de réduction d'émissions de CO2 dans des pays plus ou moins matures sur la technologie et sur l'envie, la nécessité de baisser les émissions carbone, notamment dans certains pays d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud.
Bonjour Pierre-Olivier Brial.
Bonjour.
Merci de nous avoir accueillis dans votre entreprise, donc chez Manutan, dont vous êtes le directeur général. Vous êtes aujourd'hui en plateau avec nous pour qu'on vous aide à avancer, pour qu'on vous apporte des solutions. Et c'est Mélodie Pitre à vos côtés qui va
s'en charger.
Bonjour Mélodie.
Bonjour.
Vous êtes manager chez Carbon 4. Mélodie, on vient de le voir dans le reportage, décarboner les transports. Il y a plein de sujets dans le sujet. Par quel bout on commence? Quel conseil vous pouvez apporter à Pierre-Olivier?
En effet, le sujet des transports va être primordial dès lors qu'on distribue un nombre important d'équipements comme Manutan. L'idée, en fait, on l'a dit dans le reportage, hein, c'est de regarder tous les aspects qui peuvent permettre de réduire les émissions. En premier lieu, optimiser déjà le chargement des véhicules. Et donc, ça va consister notamment à optimiser toute la logistique, mais aussi travailler avec les clients, notamment sur les durées de livraison pour pouvoir regrouper les différentes livraisons. Ouais. Travailler avec les clients sur des modes bas carbone. Et puis, sur toute la stratégie...
Ça veut dire prendre plus de temps pour livrer.
Alors
faire
voilà,
des livraisons groupées.
Exactement, ça veut dire travailler avec les clients pour voir dans quelle mesure on peut être plus flexible sur les durées de livraison pour que Manutan puisse travailler à regrouper ces livraisons-là. Et puis tout ce qui va être aussi sur la stratégie de développement de Manutan en Europe, d'essayer de mettre au plus près les centres, les entrepôts, les centres logistiques au plus près des clients pour réduire les distances.
Ouais. Alors, Pierre-Olivier Brial, donc tout ça, vous essayez de le mettre en place, d'avancer là-dessus. Il y a aussi convaincre vos partenaires de verdir leur flotte. C'est un des points de la décarbonation de vos transports, de vos livraisons. C'est pas toujours facile, j'imagine, de les inciter à bouger. Vous avez envie d'y aller, mais bon, vous avez des partenaires un peu partout. Ils sont pas forcément réceptifs comme vous pouvez l'être. Parfois, vous prenez des murs. Enfin, c'est compliqué parfois, des résistances.
Ah bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les transporteurs sont globalement les plus importants d'entre eux engagés dans des grands plans de verdissement de leur flotte. Après, les transporteurs, c'est souvent après une somme d'indépendants. Et la plus grande difficulté auquel ils font face, c'est pas tant le verdissement de leur propre flotte à eux, mais en fait le verdissement d'indépendants qui assurent des livraisons. Ça veut aussi dire les aider à financer des nouveaux types de camions. Donc c'est un travail de long terme. Mais globalement, les grands transporteurs aujourd'hui sont clairement engagés. Non, c'est nos partenaires transport.
Ouais, d'accord.
Nos partenaires transport. Mais le gros sujet en fait du transport, c'est vraiment la multitude d'indépendants qui assurent les derniers kilomètres dans les régions.
Oui,
et là, c'est des personnes qui vont avoir un ou deux camions et auxquels il faut financer un nouveau camion, etc. Donc c'est une vaste transformation du secteur.
Ouais, et là effectivement, il faut aller taper la porte d'indépendant après indépendant. Donc effectivement, c'est un travail de longue haleine. Donc, vous devez convaincre vos partenaires de verdir leur process, mais vous devez aussi convaincre vos clients de verdir leurs achats. On retourne sur le terrain chez vous, donc chez Manutan, avec Philippine.
Deuxième défi pour Manutan, celui de convaincre leurs clients de verdir leurs achats. Manutan, vous allez le voir, ne se contente pas de proposer des produits plus durables. L'entreprise collabore aussi avec ses clients pour construire justement des solutions d'achat qui réduisent leur propre empreinte carbone. Ils mettent par exemple, vous allez le voir, à disposition des outils permettant de calculer le bilan carbone de chaque client, puis d'adapter l'offre de produits en conséquence pour des achats un peu plus verts, plus responsables aussi. C'est une démarche, vous allez le voir, de co-construction pour faire passer leurs clients à l'action écologique.
Manutan a développé le score impact environnemental. Donc, le score impact est basé sur le principe de l'analyse de vie, de cycle de vie et le référencement PEF, donc le Product Environmental Footprint. Il est basé sur 16 thématiques, 16 impacts, tels que l'impact sur le changement climatique, mais aussi l'épuisement des ressources. Et ce score permet à nos clients de pouvoir faire des achats beaucoup plus éclairés, beaucoup plus responsables. Pourquoi ? Parce qu'on a catégorisé nos produits et classé ces produits en fonction de 5 catégories, donc de A, moindre impact, jusqu'à E, fort impact. Aujourd'hui, on a plus de 22 000 références qui sont aujourd'hui scorées sur notre site et qui permettent à nos clients, sur nos sites e-commerce, mais également sur les solutions P2P que nous avons mis en place avec nos clients, de pouvoir choisir les produits en fonction des impacts qui sont identifiés.
Mélodie, est-ce que ça marche ces scores pour aider les clients à verdir leurs achats, ou est-ce que chez Carbon 4, vous conseillez plutôt d'actionner d'autres leviers ?
Alors, il y a plusieurs choses à faire, mais c'est vrai que c'est intéressant cette idée de score, puisque c'est simple à comprendre. On entend un peu tout et son contraire, il y a des vérités, des contre-vérités qu'on entend. Ça peut devenir un sujet complexe, et l'avantage du score tel que Manutan le propose, c'est que c'est un message simple pour les entreprises qui vont vouloir acheter les produits Manutan. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. Et puis derrière, travailler aussi sur les réticences qu'il peut y avoir autour des offres éco-responsables, notamment l'a priori que ça va coûter plus cher. On entend souvent ça, ce qui n'est pas toujours le cas, et ce qui n'est souvent pas le cas sur les offres Manutan, parce qu'on en a parlé ensemble. Donc c'est vraiment travailler sur la communication, le marketing autour de ces aspects-là, et aussi sur d'autres réticences comme les réticences autour de la qualité des produits éco-responsables ou de l'esthétisme de ces produits-là. Donc c'est vraiment travailler sur ces aspects-là.
C'est intéressant ce que dit Mélodie, Pierre-Olivier. Les produits éco-responsables ont une mauvaise image ?
Alors pas une mauvaise image, soit ils ont une image d'être
ou des a priori négatifs.
Voilà, des a priori. Et en fait, dans ce qu'on a expliqué notamment sur la méthodologie PEF, donc ça c'est une méthodologie européenne, en fait vous avez 16 critères. Et donc souvent on va entendre carbone uniquement. En fait, on se rend compte que la vraie exploitation d'un pays, c'est par exemple des ressources, etc.
Ouais, bien sûr.
Et donc, on se rend compte que c'est pas parce qu'on achète loin que le produit va avoir un mauvais score par rapport à un produit qui est acheté plus près, parce qu'en fonction de sur quel type d'électricité l'usine tourne, etc. Mmh. Et c'est vrai qu'il faut aujourd'hui dépasser certaines idées de dire c'est soit le choix entre du low cost, soit des produits vertueux. On arrive aujourd'hui à trouver des compromis, des équilibres qui sont extrêmement intéressants.
Et depuis que vous avez mis en place ce type d'indicateur, vous voyez un changement de comportement de vos clients, de leurs achats ?
Oui.
Ça fonctionne ?
Oui, ça fonctionne. Alors notamment, on a des clients avec qui on propose ces produits dans leurs propres outils d'achat, ce qui fait que quand on reconnaît l'utilisateur venant de telle entreprise, on lui pousse ses produits en priorité. D'accord. En fait, tout l'enjeu, c'est comment on accompagne la politique d'achat d'une entreprise. L'entreprise peut avoir un plan de réduction carbone. Après, concrètement, comment les utilisateurs choisissent ces produits sur le terrain, c'est là qu'il faut les éclairer. Mmh. Et donc, si l'entreprise dit, moi, je veux en priorité que des produits 1 et 2 sortent dans les recherches, c'est là qu'on pousse ces produits et ça marche. Oui.
Bon, intéressant comme outil pour avancer. On retourne une dernière fois sur le terrain avec Philippine, parce que vous voulez avancer une étape plus loin en mettant en place du reconditionné, vous aussi.
Troisième défi, et pas des moindres, vous allez le voir, c'est celui de réduire les émissions de CO2 de leurs produits, un enjeu majeur forcément, qui pèse lourd, vous allez le voir, dans le bilan carbone. Et pour s'y prendre justement, Manutan prend le chemin de l'économie circulaire via le reconditionner. L'économie circulaire, c'est aussi le réemploi, le tri des produits, leur donner une seconde vie. comment? Et ben, on voit ça tout de suite.
Nous sommes au Bourget, à un quart d'heure de Gonesse, de notre siège social. Et nous sommes ici sur notre hub circulaire, qui est un centre dédié au réemploi de mobilier, de bureaux, de seconde main. Donc ici, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on réceptionne le mobilier qu'on a collecté chez nos clients ou chez des partenaires. On va faire un premier tri qui va consister à faire passer en fait à tout le matériel et tout le mobilier qu'on réceptionne ici des contrôles qualité. Et en fonction des résultats, le matériel va être soit simplement nettoyé, soit légèrement reconditionné puis nettoyé. Et enfin, va partir en stock.
L'enjeu est gigantesque. Pour vous donner une idée, sur le marché du mobilier de bureau, seulement 7% du mobilier utilisé est remis sur le marché, le reste par un recyclage, alors que les experts pensent qu'on peut monter à 60%. Enjeu colossal, et si on regarde les 800 000 produits qu'on vend, si on arrive à 40-50% circulaire dans le futur, les gains en CO2 pour nos clients sont gigantesques.
Mélodie, est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Pierre-Olivier? Est-ce que l'économie circulaire, c'est l'avenir de son entreprise?
Totalement. En fait, le premier poste d'achat de Manutan, c'est la fabrication de ses produits. Et c'est le cas pour toute entreprise qui va vendre et distribuer des équipements de type comme ceux de Manutan. Donc là, l'économie circulaire, elle va être un enjeu. C'est un peu comme l'énergie. La matière la plus écologique, c'est celle qu'on ne produit pas. On dispose aujourd'hui dans nos sociétés d'une quantité énorme de produits en circulation. Autant déjà miser sur cela avant d'extraire des matières neuves de l'environnement. Donc en effet, ça va être commencer par réemployer, reconditionner et à la fin, si on peut pas, recycler. Ouais. Par contre, faut avoir en tête que c'est un changement de paradigme total. Ça nécessite une collaboration forte avec l'ensemble des parties prenantes et ça bouleverse complètement les chaînes logistiques.
Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Pour conclure, Pierre-Olivier, c'est un vrai pivot là de votre business model de faire ça. Vous êtes prêt à le faire?
Alors d'abord, c'est un sujet. L'idée est simple.
Parce sur le papier, ça paraît simple, mais voilà.
Oui, alors ça remet en cause en fait un peu toute la chaîne, mais bien sûr, on est prêt à le faire parce qu'il n'y a pas plus vertueux que le produit qu'on ne reproduit pas, parce qu'il y a du stock disponible, parce qu'il y a de la demande. Ce qui manque, c'est des acteurs industriels qui savent monter à l'échelle, qui savent récupérer beaucoup de mobilier, le remettre en état et le vendre. C'est un sujet qui est magnifique parce que c'est un vrai sujet d'entrepreneur, c'est un sujet de refonte de modèle économique, donc on est totalement partant pour le faire.
Bon, et ben on terminera sur cette vision, cette perspective enthousiaste. Merci à tous les deux, Pierre-Olivier Brial de Manutan et Mélodie Pitt de Carbone 4.
Merci.
On a parlé de mobilier de bureau, on va s'intéresser maintenant à la cosmétique, au nouveau business model du secteur. Peut-on faire de la cosmétique et du bien à la nature? Comment changer les business models pour respecter les limites planétaires? On en parle avec deux dirigeantes qui ont mis beaucoup de choses en place dans leur entreprise et qui veulent le partager avec vous. Bonjour Sophie Robert-Velu.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale des laboratoires Expanscience, à qui l'on doit notamment la marque Mustela. Et avec vous, Julie Ducré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et la directrice de la marque Pulpe de Vie à Marseille. Sophie Robert-Velu, je commence avec vous. Vous êtes déjà venu sur l'antenne de BFM Business, vous êtes une dirigeante emblématique de la bascule climatique des entreprises. Expliquez-nous très concrètement la bascule de votre business model. Qu'est-ce que vous avez changé?
Tout.
D'accord.
Non, on a travaillé sur pas mal de leviers. Le premier levier sur lequel on a travaillé, c'est le sens. À quoi sert une entreprise? À quoi sert notre entreprise? À qui votre entreprise ferait-elle défaut si elle n'existait plus, par exemple? Si vous n'avez pas une réponse très claire à ça, ça veut dire qu'il y a un petit problème de sens et d'utilité de la boîte.
D'accord.
Donc on a travaillé sur ce sujet-là.
Des questions existentielles.
Oui. Pourquoi on existe? Et à partir de là, on a travaillé aussi sur la définition de la performance. C'est quoi la performance d'une entreprise? Est-ce que c'est uniquement le cash? Est-ce que c'est le profit? Est-ce que c'est la rentabilité, la croissance pour la croissance, l'innovation? Nous, on a plutôt répondu qu'il fallait qu'on ait finalement une définition de la performance qui équilibre le financier et l'extra-financier.
D'accord.
Parce qu'il n'y a pas de raison à ce que notre entreprise qui a pour vocation d'améliorer le bien-être des individus, que ce soit pour Mustela à la naissance ou pour des produits plus sur l'arthrose, etc.
Oui, pour le rhumato aussi.
Ouais, exactement. Donc pour des personnes beaucoup plus âgées, il n'y a pas de raison finalement qu'on ne regarde que les profits. Il faut que le financier et l'extra-financier soient aillent de pair. Donc on travaille vraiment sur ce monitoring de la performance. Et ça nous a amené par exemple à emprunter un chemin de décarbonation. Et je pense que toutes les entreprises aujourd'hui ont conscience qu'il faut travailler sur ce sujet-là. Mais la victoire de l'année dernière, qui est qu'on a vraiment réussi enfin à réduire en valeur absolue notre bilan carbone de 6%, ça s'est fait vraiment en travaillant sur peser chaque décision à l'aune de la finance et du carbone. Et donc, dans nos décisions, le carbone, ça vaut autant que l'argent. Et c'est ce qui nous amène à trouver des solutions pour réduire profondément cette empreinte.
Et vous arrivez à le mesurer très concrètement, comptablement, dans votre comptabilité?
Tout à fait. On n'a pas encore une comptabilité carbone globale, mais on a commencé par le faire avec les équipes. Je vous donne un exemple tout bête, mais au début, on s'était dit, on va arrêter l'aérien, on va l'interdire, le transport aérien.
Ouais.
Et en fait, quand on impose ça aux équipes, ben, c'est hyper difficile à vivre parce qu'il y a ce côté, mais on m'empêche de travailler correctement, je ne peux pas livrer mes clients à temps, etc. Et en fait, depuis un an, on a mis en place un budget carbone sur la logistique et sur le transport des personnes. Et ce budget, on vous dit, ben voilà, cette année, tu as ce budget-là, tu t'organises comme tu veux pour y arriver, mais tu dois y arriver. Et ben cette autonomie-là, elle a permis vraiment aux équipes de prendre ce sujet en main et de faire même mieux que ce qu'on leur avait donné comme budget.
Très intéressant. Julie Ducré, donc vous, c'est différent puisque l'expansion, c'est 70 ans. Vous, c'est une marque que vous avez créée il y a une quinzaine d'années. Donc, de base, vous êtes green. C'est quoi votre modèle d'affaires ?
Oui, alors tout à fait. Moi, c'est une passion et une conviction, en fait, hein, l'écologie depuis plus de 15 ans. Je pense que ça a été bercé par mes 12 années d'enfance en Afrique, où j'ai été sensibilisée très tôt aux problématiques de l'eau et aux problématiques au Sénégal.
D'accord.
Aux problématiques de l'agriculture sans pesticides, de fait, puisque de toute façon, les gens n'avaient pas le moyen de payer des pesticides. Donc, quand j'ai créé il y a 15 ans, je trouvais qu'il y avait une certaine hérésie à s'approvisionner aussi loin. Quand moi, du coup, je suis de Paris, mais je suis descendue vivre dans le Sud, qui est la première région fruitière de France, et je me suis dit, quelle est la logique d'aller aussi loin quand finalement on a notre monde agricole qui est quand même pas mal en souffrance, on a énormément de matières premières et moi je suis engagée sur la bio depuis toujours, qui est une thématique hyper importante pour moi, puisqu'effectivement il n'y a pas d'intrants chimiques, enfin vous connaissez par cœur, de pesticides, d'engrais azotés, donc j'y crois énormément. Donc il y a eu cette logique-là il y a 15 ans de se dire, je crée une marque de cosmétiques, oui, c'est un sujet qui me passionne, mais je la crée hyper ancré sur la cosmétique agricole, donc je soutiens mes producteurs. Donc je travaille depuis 15 ans avec plus de 25 producteurs. Et bien sûr, ma bascule, elle peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin parce qu'on travaille, on a fait toutes les deux des parcours, notamment de conventionnelles entreprises pour le climat. On a travaillé 10 mois sur les bascules écologiques de nos modèles. C'est un défi intellectuel dingue pour un chef d'entreprise et émotionnel aussi. La conclusion étant de se dire, la nature nous a beaucoup donné. On a très envie de lui rendre en tant que chef d'entreprise engagé. Et je trouve que c'est notre job d'essayer d'embarquer un maximum de chaînes d'entreprise sur cette bascule.
Ouais, et d'ailleurs, c'est pas que la nature, hein, je me permets, mais parce que comme on peut rebondir, il y a l'idée de rendre à la nature et il y a l'idée aussi de rendre aux générations futures. Et moi, j'ai cet enjeu, notamment sur Mustela, mais pas que, c'est cette idée de dire, je vends des produits à des nouveau-nés, enfin, aux parents de nouveau-nés, et finalement, si chaque fois que je fais ces produits-là, ça génère des pollutions, des polluants éternels, trop de plastique, on mange quand même l'équivalent d'une carte de crédit en plastique chaque semaine. Hein. Donc, il faut quand même l'avoir en tête, pour notre santé, aujourd'hui, c'est un vrai poids. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de rendre à la nature, mais pour aussi que cette nature, on puisse y vivre, on puisse y développer. C'est aussi une question de survie des populations et des entreprises.
Je voudrais réagir à ce que vous venez de dire. Vous dites que c'est un défi émotionnel et intellectuel de dingue. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Bah, hyper compliqué de basculer un modèle économique sur un modèle écologique. Donc ça veut dire, qui dit chef d'entreprise, dit rentabilité et argent. Hein. Donc c'est la définition quand même de nos sociétés. Mais en ayant un impact limité, voire positif. Et c'est ce qu'on essaye de faire, hein, je pense, toutes les deux. Moi, j'essaye, c'est très compliqué, j'essaie d'être une entreprise régénérative. Autant vous dire que le défi est un peu sévère, mais c'est clair...
Pour ceux qui ne savent pas, une entreprise à visée régénérative, c'est-à-dire c'est restaurer la nature et la biodiversité tout en développant le business. Effectivement, ça paraît un peu magique à dire comme ça. Comment vous faites concrètement ? Comment vous essayez en tout cas de faire ?
Le défi est fabuleux. Moi, c'est très clair, c'est que j'ai un lien avec le monde agricole très fort. Donc mes 25 producteurs, ils travaillent, alors, je sais pas les termes, je veux pas faire des termes trop techniques, mais en permaculture, enfin bon, sur des dimensions de sol vivant, de respect du vivant, etc. Donc déjà là, je les aide, je les soutiens, je leur apporte 20% de rémunération complémentaire parce que moi, je leur achète leurs fruits et légumes invendus. Tout ce qui va être jeté pour des problèmes de calibrage, etc., moi, je les récupère et je leur rachète au prix d'un fruit normal, puisqu'en fait, qu'il soit beau ou pas beau, c'est à peu près le même tarif. Donc, c'est carrément le même tarif, d'ailleurs. Donc, voilà, moi, j'ai cette dimension-là. Après, ça va beaucoup plus loin. Moi, au bout de 15 ans de société, je pense que j'aurais plus la passion que j'avais. Parce que la cosmétique, c'est des sujets compliqués. On a des problématiques, Sophie et moi, très lourds, hein, sur l'eau, sur l'emballage, etc. Et en fait, j'ai un regain de passion, en fait, en me disant, on est quand même des gens hyper rationnels et pragmatiques et on est en train de se dire, comment on va faire du bien à la nature, à nos enfants, comment on va rendre des sols vivants. Le défi est fascinant.
Ouais.
Fascinant.
Sophie Robert-Velu.
Ouais, moi ça me...
Le régénératif, comment ça se passe?
Ouais, on parle de réparation, de régénération, mais c'est pas que la nature, c'est aussi les modes de consommation qui doivent changer. Et je vous donne un exemple, la coopération, ça a été un vrai concept clé pour nous pour changer de modèle d'affaires. Et on est en train de travailler depuis déjà un an maintenant avec quasiment une dizaine de concurrents, ce qui est assez rare hein, dans le milieu de la cosmétique, que les concurrents s'associent. Ouais. Et donc, on est partenaire d'une machine de vrac en pharmacie qui s'appelle Pharma Recharge. Mm-hmm. On avait commencé à le faire tout seul sur Mustela et puis on se rendait compte qu'elle n'était pas très visible dans les pharmacies. Les gens allaient directement au comptoir, ils achetaient leurs produits, voilà, il n'y avait pas forcément de conseils. Et donc, on occupe beaucoup plus de place avec cette grande machine. Ouais. C'est une fontaine de produits cosmétiques.
D'accord.
Vous avez une bouteille qui s'appelle Reviens. Et en fait, cette bouteille, vous allez la remplir, puis la laver dans votre la vaisselle, puis la re-remplir, etc. Okay. Et ça, on y arrive beaucoup plus facilement avec nos concurrents. Okay. Et du coup, ce qui est intéressant dans la notion de régénération ou de réparation, c'est qu'on entraîne aussi toute notre chaîne de valeur, y compris les concurrents, les clients, les suppliers, les fournisseurs.
Bah ouais.
Et c'est cette logique de se serrer les coudes pour y arriver qui va faire qu'il y aura une bascule positive.
Oui, bien sûr. À vous toute seule, quand bien même vous êtes engagée, vous ne pourrez pas y arriver juste à deux entreprises. Mais alors, pour rebondir sur ce que vous dites, là, c'est un exemple très concret, vous arrivez à embarquer les gens autour de vous, mais est-ce que les grands groupes, ils sont prêts à vous suivre aussi loin que ce que vous faites? Ou est-ce que vous sentez encore des réticences, des blocages?
Ah, le triangle de l'inaction, c'est un vrai sujet. Hein. L'État s'attend à ce que les entreprises se bougent, les entreprises s'attendent à ce que...
Non mais là, même ne serait-ce que vos concurrents, les grands groupes de cosmétiques, est-ce qu'ils vous suivent?
Je pense qu'ils nous suivront...
Voilà, futur, ils vous suivront.
Alors, vous voulez vraiment des grands scoops? Non, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est qu'un groupe comme le groupe L'Oréal, par exemple, dans lequel j'ai travaillé pendant fort longtemps, se pose la question de que faire avec les lingettes. Il se trouve que nous, on a fait ce renoncement aux lingettes, on l'a annoncé il y a quelques années. En fait, ça bouscule. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à arrêter? Est-ce qu'ils vont juste au moins passer d'une lingette avec du plastique à l'intérieur à une lingette plus propre? Peu importe. Ce que je veux, c'est ouvrir une forme de fenêtre d'Overton avec ce renoncement-là pour entraîner les autres et peut-être pousser aussi la réglementation à se changer. Il y a un certain nombre de décrets autour de la... Alors, il y a la CSRD.
On va voir comment ça va finir.
Si on la préserve, l'Europe la préserve. Mais effectivement, il faut appliquer ce genre de choses parce que c'est ce qui va pousser les grands groupes cotés en bourse à bouger un peu plus vite. Maintenant, on sait
après, on a
que
les échelons intermédiaires.
Les échelons intermédiaires,
on y travaille beaucoup, on se parle beaucoup. Moi, dans le Sud, j'ai plein de sociétés cosmétiques, pour ne pas les citer, les Occitanes, les Aromazones, etc. On réfléchit tous quand même, on fait des consortiums sur la gestion de l'eau, la gestion de l'emballage, la problématique des terres, parce que la cosmétique est liée aux terres quand même. Après, nous, c'est hyper intéressant qu'on soit toutes les deux sur un plateau, parce que toi, t'es plutôt une belle ETI, et moi, je suis une PME, donc on n'a pas toujours les mêmes moyens. Et du coup, c'est assez intéressant. Moi, c'est clair que parfois, je me greffe à ces consortiums. Je vais aller chercher un peu les grands frères et les grandes sœurs parce que je peux pas faire toute seule. Mmh. Et donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a un système, on appelle ça de la cooptation. Mmh. Donc, de la concurrence et de la collaboration. Je pense que c'est l'avenir de notre secteur. Et au global, d'ailleurs, c'est l'avenir des chefs d'entreprise.
Et tu proposes aussi à tes clients, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu fais du bio pour la grande distribution. Donc, en plus, à des prix plus accessibles. Donc, moi, je trouve que c'est l'avenir aussi, de proposer à tous les consommateurs de passer au bio. Et du coup, chez tes distributeurs, la question, c'est est-ce que tu vas les amener eux aussi à réfléchir différemment, à avoir des contrats commerciaux qui t'aident?
T'as raison, merci de me relancer là-dessus, exactement. Parce que c'est un vrai gros point. Moi, j'essaie d'être vraiment la marque identifiée Upcycling. Donc, je propose effectivement de récupérer les invendus de gros groupes de grande distribution sur les ingrédients, etc. Voilà.
Bon.
Être un peu incubateur de ça.
C'est bien, vous êtes anti-gaspillage. Un peu le tout-goût tout-goût aussi de la cosmétique. Merci à toutes les deux.
Thomas.
Sophie Robert-Velu, directrice générale des laboratoires Expansion. C'est Julie Ducret, fondatrice et directrice de Pulpe de Vie. On accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat. Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas.
Directeur de l'AXA Climate School. On commence Antoine avec le marché immobilier américain, dont certains politiques pensent qu'il pourrait être surévalué dans certains États. De quoi parlons-nous?
Oui, alors vous allez voir, c'est pas si compliqué. Ça se passe en Californie ou en Floride, des États qui sont victimes d'une augmentation du risque climatique. Alors, ça devrait faire que les coûts de l'assurance et du crédit augmentent et donc que les coûts de l'immobilier baissent. Mais ces États, pour protéger l'activité économique et la population, ont mis un maximum sur les contrats d'assurance. Résultat, les assureurs privés ne jouent pas le jeu et décident de se retirer du marché en disant que ces contrats sont non rentables. Les États déclenchent alors ce qu'on appelle des assureurs de dernier recours, des systèmes quasiment parapublics qui assurent pile au maximum. Évidemment, depuis quelques années, ces contrats marchent très très bien et ces assureurs, c'est toute la subtilité, ne sont pas soumis aux mêmes règles de liquidité que des assureurs normaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une carte joker. En cas de grosse catastrophe naturelle, ils peuvent prélever une taxe spéciale sur tous les contrats d'assurance de l'État, même ceux qui ne leur appartiennent pas. Mais des élus démocrates comme républicains commencent à se demander si cela va suffire. Est-ce qu'en cas de grosses inondations en Floride, est-ce qu'en cas de gros feux en Californie, cette taxe sera assez ou est-ce que l'assureur de dernier recours pourrait faire faillite ? Dans ce cas-là, ce qu'on craint, c'est un scénario à la Lehman Brothers, une chute immobilière, une crise immobilière, qui s'ensuit une crise économique. Alors, on n'en est pas là, évidemment, mais on se demande si ces maisons ne valent pas un peu moins cher que les prix affichés.
Effectivement, ça pose la question. Retour en Europe maintenant, où les forêts absorbent de moins en moins de CO2, et ça, évidemment, c'est un gros problème.
Oui, vous le savez, normalement, une forêt, ça absorbe du CO2 dans le sol et puis dans les troncs. Mais dans certains cas, ça peut beaucoup moins bien marcher, et c'est le cas en Europe. En fait, ce qui se passe, c'est que s'il y a une mortalité importante dans les forêts, eh bien les arbres meurent sur pied, se décomposent et émettent du CO2. Le cas le plus dramatique en Europe, c'est la République tchèque. Ça fait des années que les forêts absorbaient 10 millions de tonnes de CO2 par an dans ce pays. Eh bien, en 4 ans, ça s'est radicalement inversé, et maintenant, elles émettent 10 millions de tonnes de CO2 par an. Les causes sont multiples, les sécheresses affaiblissent les arbres, des petits animaux qu'on appelle les scolytes attaquent ces arbres déjà affaiblis, et les font mourir, des animaux qui sont plus présents à cause du réchauffement climatique. Et puis dans le cas tchèque, l'entretien de la forêt est pas très bon, et évidemment ça empire la situation. Alors, le cas tchèque est très très marqué, mais si on va en Finlande par exemple, la forêt finlandaise est énorme, et bien elle n'absorbe presque plus de CO2. En France, on n'en est pas encore là, la capacité d'absorption de la forêt a été divisée par 2 en 15 ans, mais évidemment on n'est pas sur la bonne pente et on commence à se dire que ça pourrait nous empêcher d'atteindre nos objectifs d'émissions.
Et pour finir, Antoine, vous avez une recommandation de lecture en cette rentrée.
Eh oui, c'est le livre de la rentrée, je le prends, il est lourd. Ça s'appelle Le Déluge, c'est un roman de Stephen Markley, 1000 pages, donc il faut avoir du courage, mais c'est une véritable fresque dans l'Amérique. Ça démarre en 2020 et ça va jusqu'à 2040, une Amérique qui se délite face à un réchauffement climatique qui accélère. Les personnages sont très très forts, il y a notamment une activiste qui s'appelle Kate Morris, que vous retrouverez tout au long du livre, mais évidemment, ce qui compte, c'est cette toile de fond climatique qui glace un peu le sang, il faut bien le dire, à certains moments de la lecture. Si vous atteignez la page 500 et que vous en avez un peu marre, c'était mon cas, soyez courageux. Les 300 dernières pages, je vous le signe, sont vraiment extraordinaires et valent le coup, le genre de bouquin dont on se souvient et dont on reparle avec ses proches.
Bon, c'est plutôt bien vendu pour cette rentrée littéraire 2025. Merci, merci beaucoup Antoine et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, à écouter BFM Climat, donc merci, continuez comme ça. Merci aussi à la CEC, comme toujours, pour son aide précieuse dans la préparation de son émission. On se retrouve très vite, la semaine prochaine, et d'ici là, eh ben on garde contact, bien sûr, sur l'appli BFM Business, en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.